La liberté de la presse, en France et dans le monde, est un sujet majeur pour RFI. Aussi, lorsque j'ai appris que le magazine français Society et l'ONG Reporters sans frontières s'associaient pour publier un numéro spécial consacré à cette question, j'ai tout de suite voulu en savoir plus, pour le partager avec vous, auditeuriste de l'Atelier des médias. Salut, c'est Steven Jambeau. Pendant 20 minutes à la radio, une dizaine de plus si vous choisissez d'écouter cette émission en podcast, nous allons découvrir ce numéro spécial de Society conçu pour et avec 8 journalistes emprisonnés. Ils s'appellent Jimmy Lai à Hong Kong, Marina Zolotova en Biélorussie, Narges Mohammadi en Iran, Amadou Vamulke au Cameroun, José Ruben Zamora au Guatemala, Irfan Meraj en Inde, Dawit Isaac en Érythrée et Mohamed Oxygène en Égypte. Ils font partie des plus de 550 journalistes qui, quelque part dans le monde, vivent en prison. Et puisqu'ils sont réduits au silence, RSF et Society ont choisi de leur redonner une voix avec ce numéro spécial paru jeudi 12 septembre. Pour en discuter, j'ai reçu en studio, à RFI, la directrice éditoriale de RSF et l'un des rédacteurs en chef de Society.
RFI.
Bonjour Anne Bocandé.
Bonjour.
Bonjour Thomas Pitrel.
Bonjour.
Si j'en crois la vidéo promotionnelle de ce numéro spécial, l'idée a germé en conférence de rédaction de Society en septembre 2023, Thomas Pitrel.
Ouais, alors je crois même que c'était encore avant ça. Le tout début de l'idée, je crois que c'est quand on a sorti le numéro 200 de Society, donc c'était en mars 2023, où on a commencé en fait à évoquer cette idée-là. Ça faisait partie d'un brainstorming parce qu'on cherchait justement des idées pour fêter un peu le 200e numéro de Society. Et en fait, cette idée-là était sortie, mais nous, on savait pas du tout si c'était même réalisable, en fait, d'entrer en contact avec des journalistes en prison. D'où l'idée de ne pas le faire pour ce numéro 200 de Society et de se dire, on va aller voir les gens qui savent.
Aller voir RSF, c'était une évidence.
Ouais, c'était une évidence parce qu'on savait que voilà, RSF, ils savent, ils sont en contact déjà avec les journalistes en question ou avec leurs proches. On savait qu'ils allaient pouvoir nous dire « Ok, c'est possible ou c'est pas possible ». Et donc, on est allé les voir effectivement à peu près vers septembre, je pense, 2023, et ils nous ont dit que c'était possible.
Anne Bocandé, RSF publie régulièrement des magazines intitulés « 100 photos pour la liberté de la presse », mais s'associer avec un titre comme Society pour une production éditoriale conjointe, c'est plus rare, j'ai l'impression.
On peut dire en effet que c'est un numéro collector qui est sorti avec cette collaboration et qui a cette particularité aussi de vraiment ces deux rédactions qui s'associent en solidarité avec leurs confrères qui sont emprisonnés. Donc ça c'est aussi la particularité je pense de ce numéro et d'incarner aussi la voix de ces, parce que en tout nous sommes aujourd'hui à l'heure où je vous parle à plus de 580 journalistes emprisonnés à travers le monde. Alors là on n'a évidemment pas pu dresser le portrait de tous ces journalistes, mais nous avons choisi avec la rédaction de Society quelques cas emblématiques, raconter leur histoire, plonger aussi dans leur vie, puisque ce sont des hommes et des femmes qui se sont battus et qui payent le prix aussi du combat pour la liberté de la presse. Et donc, c'est comme ça que nous avons construit ce numéro. Donc, vraiment un numéro collector, un numéro inédit.
Comment choisir justement un petit nombre comme ça de journalistes parmi les multitudes d'histoires qu'il y a, Thomas Pitrel, Anne Bocandé, comment est-ce que vous êtes répartis? Vous avez choisi d'avoir une approche un peu géographique, d'avoir des gens sur tous les continents ou alors d'avoir des histoires qui soient vraiment symboliques de quelque chose?
Il y a beaucoup de critères qui se sont croisés au fil des réunions qu'on a faites avec RSF. Effectivement, un des critères, c'était d'avoir des gens un peu dans le monde entier. De représenter plusieurs zones et voilà, de pas se concentrer sur certains pays, même si on sait par le classement de RSF que certains pays ont beaucoup plus de journalistes emprisonnés que d'autres, mais là on voulait vraiment représenter toute la diversité des situations. Et justement, au-delà du côté géographique, la diversité des situations, c'est aussi la diversité de possibilités d'accès qu'on pouvait avoir à ces journalistes-là. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont plus facilement joignables, on va dire, depuis leur cellule. Pour d'autres, c'est totalement impossible. On voulait pas non plus, même si le principe était d'entrer en contact avec ces journalistes et de leur demander quel article ils voulaient faire. On voulait pas se couper des journalistes qui étaient vraiment totalement injoignables. Du coup, il a fallu qu'on réfléchisse un peu à des manières de contourner ça et d'entrer en relation avec leurs proches, avec leurs avocats, avec leurs collègues dans leurs journaux et à travers ces gens-là, d'essayer de voir un peu quel sujet ils pensent que le journaliste emprisonné aurait aimé faire. Et donc après, les autres critères, c'était de de construire un magazine, c'est-à-dire qu'à sa cohérence et de pas, enfin quand on fait un comme n'importe quel magazine, n'importe quel numéro de Society, finalement, on va pas avoir que des interviews dans un numéro, on va pas avoir que des portraits, on va pas avoir que des enquêtes. Donc l'idée c'était d'avoir un peu de tout, d'avoir on a un article sur la gastronomie à Hong Kong par exemple, qui peut paraître assez étonnant dans un magazine comme ça, mais voilà, c'était le sujet qui tenait à cœur du journaliste en question. On a des interviews, on a des enquêtes, on a des portraits, on a un peu de tout en fait. Donc c'était ça l'idée, c'était que ce numéro-là puisse passer finalement quasiment pour un numéro normal de Society, malgré tout le côté, effectivement, comme disait Anne, collector et inédit du concept.
Anne Bocandé, RSF, justement, a pour raison d'être de défendre la liberté, l'indépendance et le pluralisme du journalisme partout dans le monde. Il n'y a pas de zone oubliée. D'ailleurs, une carte dans ce numéro de Society le montre, une carte du monde.
Tout à fait, puisque nos équipes sont aussi internationales, puisque nous avons des correspondants, des journalistes locaux dans quasiment tous les pays internationaux, des bureaux aussi, donc un siège à Paris, des bureaux à Washington, à Rio, à Taipei, à Tunis, à Dakar, donc un petit peu partout. C'est grâce à toutes ces équipes que nous pouvons monitorer au quotidien l'état des lieux de la liberté de la presse, et justement, en effet, qu'il n'y ait pas de zone oubliée, même si parfois on voudrait que certains journalistes le soient, ou que certains régimes voudraient que certains journalistes le soient, puisqu'on parle notamment d'Ewit Isaac dans ce numéro, qui est un journaliste dont on n'a pas de preuve de vie depuis des années en Érythrée, qui est le pays qui est le dernier au classement de la liberté de la presse.
Qui avait été arrêté en septembre 2001, un moment noir. Quelques jours après le 11 septembre, le régime érythréen a décidé d'arrêter nombre d'opposants, de journalistes pour les faire taire. Et nous n'avons pas de nouvelles de nombre d'entre eux, dont ce journaliste.
Dont ce journaliste, qui est le journaliste qui est enfermé depuis le plus longtemps, sans procès. Et puis quand on parle de la diversité des profils, c'est aussi ça se joue aussi à cet endroit, mais aussi dans le numéro, vous allez voir des journalistes qui ont la trentaine, d'autres qui ont près de 80 ans, des hommes, des femmes, des fondateurs de médias, des journalistes d'investigation, des journalistes qui travaillaient sur des sujets, justement pas d'investigation, mais à un moment donné, qui ont été réprimés pour leur travail. Donc c'est ça aussi qu'on voulait montrer, c'est la diversité des profils de journalistes.
Et qui ont en commun d'être détenus arbitrairement, parfois isolés, totalement isolés même, et qui ne peuvent de fait plus exercer leur métier et mener leurs enquêtes d'utilité publique. C'était aussi important de le montrer, ça.
C'était important puisque ces journalistes qui sont, encore une fois, on a quelques portraits dans ce numéro-là, mais en général, ces journalistes, ils sont emprisonnés pour leur travail à eux, mais aussi utilisés pour museler l'ensemble de la profession dans un pays, dans une région, mais aussi donner un signal alarmant au monde entier, puisque si tu travailles, si tu vas sur certains sujets, tu peux te faire arrêter, on va te faire taire. Donc c'est aussi des messages comme tels qui sont envoyés à toute une profession, et il est important que la profession aussi se mobilise, mais pas que la profession, pour justement contrer ce genre de répression.
On va parcourir ensemble justement quelques-uns des portraits et quelques-uns des articles rédigés par certains des journalistes emprisonnés qu'il y a donc dans ce numéro collector de Society avec Reporters sans frontières. Thomas Pitrel, il y a par exemple un article sur José Rubén Zamora, 67 ans, au Guatemala, qui est le fondateur du quotidien El Periódico, qui est un des symboles de la lutte contre la corruption dans le pays et qui est en prison et qui attend un nouveau jugement pour éventuellement être libéré.
Ouais, alors je vais moins bien le prononcer que vous, son nom sans doute, mais oui, Zamora, c'est vraiment un sujet qui, je trouve, est assez intéressant, parce que lui, c'est celui peut-être auquel on a le plus eu accès, puisqu'on lui a rendu visite en fait dans sa cellule. On a pu aller le voir au Guatemala et voilà le rencontrer. Il nous a reçus quasiment comme si on faisait une interview normale, sauf qu'on était en prison. Et c'était assez passionnant parce qu'on comme disait Anne, il y a beaucoup de profils différents. Lui fait plutôt partie des plus âgés, on va dire. Mais depuis sa prison, il continue, le combat. Et même si aujourd'hui il y a un nouveau chef de d'État au Guatemala qui a l'air plutôt d'être favorable au fait de libérer, même ce chef d'État-là, il continue à le critiquer. Et c'est, je trouve, dans le papier quelque chose d'assez émouvant, qui est que il est un peu jusqu'au boutiste et il croit vraiment à sa mission de journaliste. Et c'est assez touchant parce que quand on fait notre magazine un peu nous dans notre coin, bah, on a tendance, même si le journalisme est quand même un métier où on rencontre plein de gens, justement rester un peu de notre côté. Et en fait, là, on se rend compte que y a des gens qui ont le même état d'esprit partout dans le monde. Et c'est assez. C'est un numéro qui pourrait passer pour pas très optimiste finalement. Mais en fait, c'est assez rassurant quand on voit ça, de voir qu'il y a des gens qui ont ce courage. Et parce que nous, quand on fait ce numéro-là, finalement, les journalistes de Society prennent assez peu de risques. C'est eux qui prennent tous les risques, en fait. C'est les journalistes détenus. L'exemple de Zamora est assez parlant de ce côté-là. Et je trouve que c'est assez, assez rassurant, finalement, de voir tout ça.
Anne Bokandé, dans ce numéro spécial de Society, il est également question de Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix 2023, incarcérée en Iran. Elle a déjà passé au cours de sa vie près de 10 ans en prison au total et pourrait encore passer 11 années supplémentaires derrière les barreaux. Elle a souhaité vous transmettre un questionnaire les équipes de Society, vous RSF, avaient transmis à des personnalités, toutes des femmes à l'international, pour leur demander leur position sur ce qu'elle appelle l'apartheid de genre qui a cours actuellement en Iran.
En effet, Narges, c'est comme Zamora, c'est des personnes qui continuent leur travail de journaliste en prison et qui payent aussi. Alors, c'est moins le cas de Zamora, mais là pour Narges, le fait même de continuer de travailler en prison, elle subit des répressions en permanence et pourtant elle continue. Elle est privée d'appels régulièrement avec sa famille, privée de visites régulièrement. On sait qu'aussi elle subit des mauvais traitements en prison, mais coûte que coûte, elle trouve le moyen de poursuivre son combat et notamment son combat pour les droits des femmes et de continuer à le faire entendre et à le porter. Donc c'est ce qu'elle a souhaité faire de cette manière-là pour ce numéro-là, qu'elle puisse poser des questions à certaines femmes qu'elle admire, qui travaillent aussi sur ces sujets-là, et de leur poser des questions vraiment sur cette thématique-là pour continuer de faire entendre cette thématique à travers le monde. Donc c'est encore là aussi une preuve de courage assez incroyable. On a fêté cette semaine un triste anniversaire d'une grande répression en Iran, dont elle est aussi un symbole. Donc c'était aussi très important pour nous de l'avoir dans ce numéro-là. Et on a travaillé avec sa famille, avec ses enfants, qui sont aujourd'hui, qui poursuivent son combat aussi et sa parole aussi aujourd'hui. Et donc c'est en cela qu'elle a participé, Narges, dans ce numéro.
Thomas Pitrel, pour parler de Jimmy Lai, 76 ans, mania de la presse et propriétaire du quotidien Apple Daily à Hong Kong, qui est actuellement en prison, vous avez pris contact avec son fils qui vous a parlé de son père et qui vous a dit qu'une des meilleures façons de parler de lui serait sans doute de s'intéresser à une de ses passions, autre que faire des éditoriaux pro-démocratie et anti-Pékin, c'est la gastronomie, vous en parliez tout à l'heure. La gastronomie hongkongaise qui a ses spécificités et qui est une des spécificités de cette île qui est tout un symbole, elle aussi.
Ouais, ça c'est typiquement un exemple d'article qu'on aurait pu faire dans un numéro de Society tout à fait classique, parce que c'est les angles finalement qu'on aime bien, nous, chez Society. Mmh. On essaye de partir de quelque chose qui peut paraître parfois anecdotique et de le transformer en quelque chose qui raconte plein de choses sur la société, sur le pays dont on parle. Et là, c'est typiquement le cas, parce que effectivement, Jimmy Lai, dans son histoire, son fils nous raconte que quand il était petit, il a grandi dans la Chine communiste, il n'avait pas beaucoup à manger à cette époque-là. Et quand il est arrivé à Hong Kong, il a découvert finalement la société hongkongaise par sa gastronomie. Et du coup, il est resté passionné de gastronomie toute sa vie. Et du coup, le sujet coulait un peu de source parce que les restaurants hongkongais ont beaucoup participé au mouvement pro-démocratie contre quand Pékin a voulu mettre un tour de vis à Hong Kong. Il y avait les restaurants pro-démocratie, les restaurants pro-Pékin, les restaurants neutres qui étaient identifiés par des couleurs. Ça se retrouvait aussi dans le nom des plats parfois. Et en fait, la situation actuelle des restaurants montre aussi le fait que cette répression a fonctionné, parce que la plupart des restaurants sont un peu obligés de se cacher, ont changé le nom de leurs plats, font parfois même plus les mêmes plats, parce que la gastronomie hongkongaise pourrait paraître comme quelque chose d'un peu révolutionnaire. Donc du coup, ils sont mis à faire des plats plus chinois. Tout ça en fait raconte totalement la situation à Hong Kong à travers ce sujet de la gastronomie. Et juste une dernière chose sur le cas de Jimmy Lai, lui pour le coup fait partie des gens, comme nous l'avait dit RSF dès le début d'ailleurs, dès les premières réunions, qu'on ne pouvait pas contacter directement, d'où le fait d'être passé par son fils. Et c'est le cas, je crois, à peu près des 121 journalistes qui sont emprisonnés en Chine et à Hong Kong, avec lesquels on peut malheureusement pas du tout avoir de contact.
Anne Bokandé, il y a Amadou Valmouke, 74 ans, ancien directeur général de la CRTV, la radio-télévision publique camerounaise, détenu depuis déjà 8 ans, condamné en 2022 à 12 ans de prison, recondamné fin août 2024 à 20 ans de prison, dans les deux cas pour détournement de fonds publics. Et il y a dans ce numéro de Society un article signé par Vincent Rioux pour Amadou Valmouke, où Amadou Valmouke a souhaité parler de l'affaire Martinez-Zogo, qui est une affaire terrible qu'RSF suit depuis le début, du nom de ce journaliste enlevé, torturé, assassiné sauvagement en janvier 2023 à Yaoundé. Le procès est en cours, vous le suivez, vous, RSF, et il se doit d'être exemplaire, ce procès.
En effet, c'était pas anodin que Amadou Valmouke choisisse ce cas-là, puisque en effet au Cameroun la question de la liberté de la presse est une question. Et donc quant à Amadou Valmouke, qui en effet, rappelons-le, subit une répression complètement injuste et injustifiée, et là il vient de prendre en tout du coup 32 ans de prison, sachant qu'il a déjà plus de 70 ans, qu'il a une santé qui est une santé fragile, donc voilà, c'est une situation assez alarmante. Et donc le cas de Martinez Zogo, en effet, ce journaliste qui a été tué il y a un an, dont l'affaire a énormément de rebondissements. On suit en effet l'enquête, on attend ce procès, donc normalement dans quelques mois. On espère que l'issue va être vers la justice, mais on a des doutes à cet endroit-là. Mais c'était important de pouvoir faire entendre aussi à la fois la voix d'Amadou Valmouke, à la fois la voix de Martinez Zogo et de cette lutte contre la punité de ce crime commis contre ce journaliste.
Vous écoutez l'atelier des médias de RFI. Nous parlons d'un numéro collector du magazine français Society, produit avec Reporters sans frontières. Mes invités sont Thomas Pitrel, rédacteur en chef de Society, et Anne Bokandé, directrice éditoriale de Reporters sans frontières. Vous donnez la parole aussi dans ce numéro spécial à la journaliste philippine Maria Ressa, prix Nobel de la paix 2021, pour le travail de son média en ligne Rappeleur. Pourquoi c'était important de l'avoir dans vos colonnes aussi, Maria Ressa ?
C'est un cas un peu particulier parce que elle est pas emprisonnée actuellement. Elle a été arrêtée à nombreuses reprises par le pouvoir philippin, mais actuellement elle est libre. Pourquoi on a voulu lui parler? Parce que elle a un propos sur l'évolution du journalisme qui est assez passionnant, et dans l'organisation du magazine, c'est le premier article long qu'on lit. Et en fait, on avait envie d'avoir quelqu'un pour un peu poser les bases, quoi, et dire où on en était, comment le journalisme a évolué ces 20-30 dernières années. Elle a une carrière suffisamment longue pour avoir vu toutes ces évolutions. Elle a commencé à CNN, elle a après fondé un média en ligne. Et en plus, quand elle a fondé son média en ligne, elle l'a fait en ayant beaucoup d'espoir sur le rôle qu'allaient avoir les réseaux sociaux, notamment sur la liberté d'informer. Parce qu'on était au moment des révolutions arabes, on se disait ça y est, on ne pourra plus jamais empêcher les gens d'avoir une information de qualité. Et en fait, elle a vu la façon dont les réseaux sociaux, en fait, ont été retournés par les régimes autoritaires, et dont les régimes autoritaires s'en servent pour au contraire totalement réprimer le journalisme. Et aujourd'hui, la conclusion, elle, qu'elle tire dans cet entretien, c'est que en fait, le faire du journalisme est beaucoup plus dangereux, selon elle, que au début de sa carrière. En partie, elle, en tout cas, l'impute aux réseaux sociaux, aux plateformes, à la tech, qui ont un peu pris le rôle de distribution de l'information aux journalistes, finalement. Et donc, c'était important, en fait, de poser cette base-là avant de commencer à parler des journalistes emprisonnés et de comment des régimes autoritaires aujourd'hui peuvent continuer à réprimer ces journalistes-là, parce que finalement ça peut être assez contre-intuitif dans un monde où l'information est censée circuler totalement librement partout, de se dire qu'aujourd'hui encore on continue à enfermer des journalistes de façon en toute impunité et sans qu'il y ait parfois beaucoup de contestations dans les pays en question. Donc voilà, c'était ça un peu l'intérêt d'aller voir Maria Ressa pour ce numéro.
Vous avez également sollicité la journaliste française Ariane Lavrieux pour lui demander quelles avaient été les enquêtes, investigations qu'il avait marquées au cours de son parcours. Rappelons-le, c'est une journaliste française qui avait été placée en garde à vue et perquisitionnée en septembre 2023 pour une enquête sur le détournement d'une aide militaire française à l'Égypte de Sissi. Rappelons par cette même occasion le fait qu'elle soit présente dans vos colonnes, c'est l'occasion de dire que tout n'est pas rose en France en matière de liberté de la presse. Enfin, aussi précisons, Anne Bocandec, dans ce numéro spécial de Society, il y a des photos qui nous montrent le quotidien des Palestiniens de Gaza. Là, pareil, RSF est très présent sur ces sujets depuis un an pour ce qui se passe dans cette enclave palestinienne.
Tout à fait, c'était important aussi de pouvoir avoir dans ce numéro-là une manière de raconter Gaza comme prison à ciel ouvert, puisque c'est ça aujourd'hui la réalité depuis le 7 octobre, notamment particulièrement de la répression contre les journalistes aussi de ce territoire qui est complètement fermé. Plus de 100 journalistes ont été tués déjà depuis le début. Donc c'était important de pouvoir avoir les photos de photoreporters, puisque c'est des photoreporters palestiniens qui ont proposé des photos qui figurent dans ce numéro de Society. Et en effet, à Reporters sans frontières, c'est un combat qu'on mène au quotidien sur la question de l'impunité des crimes commis contre les journalistes à Gaza, puisque là, on a déposé plus de 3 plaintes à la Cour pénale internationale. Aussi, on a tout un travail d'assistance qu'on arrive à faire parvenir coûte que coûte dans Gaza pour que les journalistes puissent continuer à travailler avec du matériel, avec une assistance humanitaire aussi. Donc en effet, c'est un des combats prioritaires de Reporters sans frontières c'est en ce moment.
Thomas Pitrel, on est donc sur un hors-série de Society. Le sujet, la liberté de la presse, est sans doute moins vendeur qu'une enquête sur Xavier Dupont de Ligonnès, qui avait été un carton dans les kiosques. J'avais reçu Franck Anèze à ce micro à ce sujet. Combien d'exemplaires pensez-vous vendre autour de ce sujet avec RSF?
Alors déjà, c'est l'avenir qui nous dira si c'est plus vendeur qu'une enquête sur Xavier Dupont de Ligonnès. Nous, on espère en vendre plus encore. Non, on n'a pas d'objectif chiffré. Enfin, le but de ce numéro n'était pas de faire une opération commerciale et d'en vendre des tonnes. Nous, on ne peut que souhaiter que ça va fonctionner et que les gens seront sensibles, voilà, au message qu'on essaye de faire passer. Mais en plus, au-delà de ça, nous, c'est pour ça que je disais qu'on voulait un peu faire un numéro normal de Society. C'est-à-dire qu'on se disait, bah, finalement, les gens qui habituellement pourraient venir nous acheter pour justement un article sur un fait divers ou quelque chose comme ça, qui sont, nous, des choses qu'on assume totalement. On aime aussi beaucoup ces articles-là et on pense qu'ils disent beaucoup sur la société aussi. Mais disons que les gens peuvent être intéressés par différents types d'articles. On se disait que nos lecteurs habituels... on pense qu'ils sont sensibles à cette cause-là, mais peut-être pas tous, finalement. Et donc, la mettre en avant, c'était une manière... de d'amener des gens qui sont pas forcément capables de saisir exactement ce que ça veut dire la répression de la liberté d'information, de les amener à un peu mieux comprendre ça et de voir ce que ça signifie concrètement pour la vie de gens qui, comme disait Anne, sont des hommes et des femmes qui ont une vie, qui ont des passions qui peuvent être la gastronomie, qui vivent et qui ont encore dans les interviews de Narges Mohammadi dont on parlait tout à l'heure. Il y a, j'ai plus en tête, je crois que c'est Shirin Ebadi qui dit ça, mais je suis pas sûr à 100%. Il y a une des intervenantes qui dit, toi et moi, Narges, en fait, on est des femmes heureuses. Et c'est ça qu'on pas réussi à nous enlever, les régimes autoritaires qui nous mettent en prison ou qui nous oppriment. Je trouve que c'est important de rappeler ça et que de réussir à mettre en avant, ce bonheur, cette joie et plein de sujets différents. Si ça peut aider à faire passer le message, ce serait top.
Anne Bocandé, là aussi, c'était l'idée peut-être d'essayer de toucher des publics supplémentaires pour permettre à RSF d'élargir sa base de, comment dirais-je, de public conscient sur ces enjeux de liberté de la presse en 2024 à travers le monde.
C'est vrai que c'est notre travail aussi à Reporters sans frontières de continuer par tous les moyens possibles de sensibiliser et d'agir aussi sur les questions de liberté de la presse et de droit à l'information. Et cette collaboration en fait partie aussi pour raconter justement, comme on le disait, que c'est des histoires de vie. Il y a les frères, les sœurs, les familles qui parlent aussi dans ce numéro et qui racontent aussi ces bouts de vie de ces personnes-là. Donc de rapprocher aussi le travail du journalisme de tout à chacun, de montrer aussi le coût en fait de l'information qu'on lit, puisque la dangerosité de ce métier qui est de nous informer, et donc de montrer aussi que finalement ça c'est un combat qui nous concerne toutes et tous, à la fois ceux qui lisons, regardons, écoutons l'information, et puis ceux qui la produisent.
Et également, j'imagine, peut-être d'essayer d'avoir de nouveaux adhérents à cette association qui, on le rappelle, vit de subventions, de dons, mais également de ce que lui rapportent ses albums Sans photo pour la liberté de la presse. Ce numéro spécial de Society, on peut évidemment le dire et le rappeler, il est dédié à Christophe Deloire, l'emblématique secrétaire général de Reporters sans frontières, mort en juin 2024 des suites d'un cancer. Il avait 53 ans. Nous sommes sur RFI. Anne Bocandé, Thomas Pitrel, certains des journalistes emprisonnés qui ont contribué à ce numéro, au hasard Amadou Vamoulke, écroué à la prison centrale de Yaoundé, ou encore d'autres, sont peut-être en train de nous écouter par la magie des ondes. Quel message avez-vous envie de leur adresser via RFI, Thomas Pitrel, Anne Bocandé?
Bah déjà, si on parle d'Amadou Vamoulke en particulier, ce qui est intéressant, c'est que le Vincent Rioux, le journaliste qui a écrit l'article sur Martinez Zogo pour Amadou Vamoulke, je crois l'a eu au téléphone hier soir. Ils ont parlé assez longuement et donc il était très content de l'article et on a envie de lui envoyer tous nos remerciements parce que c'est quelqu'un. Il faut le rappeler quand même, tous ces journalistes qui ont accepté de participer à ce numéro-là, ils prennent des risques. Et lui, bah, il prend un risque finalement en participant et en acceptant que son nom soit associé à cet article-là. Il pourrait très bien, avoir des conditions de détention qui empirent à cause de ça ou des choses comme ça. C'est le cas pour tous les journalistes qui ont participé à ce numéro. Donc voilà, on a envie de les remercier d'avoir ce courage-là. Et pour tous les autres, tous ceux qui pourraient nous écouter, bah, on a envie de leur dire qu'on pense à eux et qu'on espère que à notre tout petit niveau, on arrivera à changer quelque chose avec ce numéro-là et à faire entendre leur voix.
Anne Bocandé.
En effet, je pense que d'abord merci pour les combats menés, puisque les combats qu'ils continuent, et on espère être à la hauteur de la tâche d'aujourd'hui, de poursuivre ces combats aussi pour eux, pour vous. Et je sais qu'il y a la devise de David Isaac, son média qu'il avait créé donc en Érythrée quand il a été arrêté, c'était si vous avez l'occasion d'écrire, faites-le. C'est ce que font du coup tous ces journalistes qui, j'espère, peut-être nous écoutent, et je pense que tous ceux autres qui nous écoutent aussi, les auditeurs auditrice, peut-être on pourrait transformer cette phrase en « si vous pouvez agir, faites-le ». Et je pense que ce numéro aussi est une invitation à l'action pour la liberté de la presse, pour le droit de l'information.
Le message est passé. Le numéro spécial de Society, conçu pour et avec 8 journalistes emprisonnés dans le monde, est en vente jusqu'au 10 octobre 2024 dans les kiosques, qu'ils soient physiques ou numériques, pour 5,50 €. Merci Anne Bocandé, directrice éditoriale de Reporters sans frontières.
Merci.
Et merci Thomas Pitrel, rédacteur en chef au magazine Society.
Merci.
À bientôt dans l'atelier des médias. L'entretien que vous venez d'écouter est disponible en version longue, en podcast, puisque l'Atelier des médias est une émission que l'on vous propose d'abord en ligne avant de la diffuser à la radio. Elle est réalisée par Simon De Creuse, qui l'en soit remercié. Pour nous contacter, envoyez-nous un mail à l'adresse atelier@rfi.fr. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro original de l'Atelier des médias.